potentiel futur en même temps, ainsi que le monde visible et invisible parle d'une manière frappante de la réalité d'une vie située au-delà de la mort physique. Ce qu'il relate à propos du riche et du pauvre Lazare est symptomatique. Lisons ensemble un passage de Luc chapitre 16. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse sur la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici isolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Ce que vient de raconter Jésus ne concourt pas à sa popularité auprès des Juifs, car il désapprouve ceux qui placent leur confiance dans les biens de ce monde, les exploiteurs et les cupides qui ne partagent pas avec leurs semblables moins fortunés. Tout ceci pourrait fort bien se transposer à nos temps modernes, par quelque chose de comme vous avez un tas d'argent, une belle maison, une voiture du dernier modèle, un bateau sur le lac et votre entourage marche au doigt et à l'œil selon votre bon plaisir. Toutes ces richesses ne représentent que du vent pour Dieu. Vous vous dirigez tout droit vers l'enfer. Le Fils de Dieu, au travers de l'histoire du riche et de Lazare, montre comment tirer parti de ce qui se présente à nous en tant qu'occasion de faire le bien. Il fait ressortir la nécessité de nous conformer à la parole de Dieu. La Bible nous parle de cet homme richement vêtu de pourpre et de lin fin, qui fut coûteux par excellence. Il avait fait soigner sa vie durant. Les Écritures stipulent pourtant bien que l'homme a un ouvrage à faire durant 6 jours et que le 7e est destiné au repos. Néanmoins, pour ce riche, tous les jours se ressemblaient car il faisait bombance. Pourtant, a priori, rien d'immoral n'apparaît dans la conduite de cet homme. Il ne fait aucun mal à Lazare, ne le bat pas, ne le fait pas jeter en prison parce qu'il est gênant. Cet homme riche est tout simplement aveugle, hermétique, indifférent à la misère des autres. C'est tout. Mais cela va lui coûter son âme, tout simplement. Lazare, lui, est le seul dont le nom soit mentionné dans un récit de ce genre. Certains pensent qu'il s'agit d'une parabole. Tel n'est pas le cas, car cela décrirait des événements qui pourraient être réels. Or, il n'en est rien. Le nom Lazare provient de l'Ancien Testament, et Lazare, qui signifie « aide de Dieu » ou « Dieu est mon aide ». Ce nom semble prédestiné, car l'Éternel est en effet le seul qui puisse à la rigueur lui venir en aide dans ce cas. Lazare est couvert d'ulcères, et il n'a pas même la force de chasser les chiens qui viennent le lécher. Cela accroît encore sa misère, et pourtant, ces animaux lui accordent malgré tout plus d'attention que l'homme riche. Le pauvre être désirait manger ce qui tombait de la table du riche, mais ce n'était pas suffisant pour lui redonner des forces. Il meurt. Son corps se sépare de son âme, et la Bible dit que cette âme se retrouve dans le sein d'Abraham, le ciel, où des anges l'ont porté. Rien n'est stipulé quant à l'enterrement de son corps. L'homme riche meurt aussi. Il est probable que ses funérailles se déroulent avec pompe et respect. Peut-être son corps s'en va-t-il vers sa dernière demeure dans un cercueil magnifique et entouré d'une foule de femmes payées pour pleurer et pousser des gémissements, comme c'était le cas pour les gens fortunés de l'époque. Ce corps avait certainement été embaumé et de grands discours prononcés. Mais la chose à retenir, c'est que de sa belle maison, de la magnificence des fêtes qu'il donnait, de tout son argent, il ne reste rien. Tout cela n'avait pas empêché de mourir. En contraste avec sa vie sur terre, se remarque aussi par le fait qu'à son arrivée dans le séjour des morts, il leva les yeux. Autrement dit, les supplications commencent. Qui aurait pu penser qu'un tel homme devrait interrompre la vie qu'il menait sans se préoccuper de Dieu? Seulement voilà, la mort est un élément dont la réalité ne peut être négligée. Des centaines, des milliers de gens meurent chaque jour dans notre pays, des pauvres, des riches et des puissants. Tous meurent un jour. Il existe des cimetières partout, des veuves et des orphelins aussi d'ailleurs, et c'est bien triste. La Bible parle clairement de la conscience après la mort. Certains détails concernant l'âme après le décès corporel sont donnés par les croyances juives ainsi que par Jésus. Plusieurs propriétés physiques sont attribuées à ces âmes de manière à permettre de réaliser leur état. Nous comprenons bien entendu qu'il serait vain et même dangereux d'ériger une série de théories théologiques sur des figures d'espèces telles que celles qui sont données par le récit dont nous venons de prendre connaissance. Cependant, la parole de Dieu n'en enseigne pas moins ici, et dans des termes aussi clairs qu'indéniables, que la récompense et la punition trouvent leur accomplissement dès que survient la mort. La deuxième chance est une vue de l'esprit, et ainsi d'ailleurs qu'un quelconque assoupissement de l'âme. Le jugement à la fin des temps n'a pas pour but de décider l'innocence ou la culpabilité, mais de prononcer la sentence finale. Après sa mort, l'âme de Lazare est aussitôt emportée au ciel, endroit paisible s'il en est un. Là, Abraham, le père de la nation juive, l'accueille comme un fils. Lazare est toujours Lazare, il n'est pas endormi, mais tout à fait conscient. Il en va de même pour l'homme riche, qui se retrouve en un lieu de tourments éternels, où il est déjà puni. Cet homme reconnaît celui qu'il appelle Père Abraham. Il pense à ses saints frères. Il voit Lazare. Il constate maintenant que la seule chose qui est possible d'emporter avec soi dans l'au-delà est soi-même. Il demande à Lazare de lui rafraîchir la langue et on devine aisément qu'il est humilié à un point tel par la souffrance qu'il est prêt à accepter une aide d'où qu'elle puisse provenir, même de Lazare. Le mendiant se serait contenté des miettes tombant de la table du riche. Maintenant, les rôles sont inversés. Ce nanti de la terre pleure pour obtenir ne fût-ce qu'une goutte d'eau de la part du mendiant. Le plus petit soulagement de sa misère aurait dû être le bienvenu. Sur terre, aucun plaisir n'était assez raffiné et trop extravagant, mais en cet instant, les tourments autorise n'importe quel expédient. Enfin, peut-être est-ce là la toute première fois où le pauvre accorde un peu d'attention à Lazare et lui adresse même la parole en utilisant des mots aimables. Mais Abraham refuse d'accéder à sa requête. Il lui dit en lui rappelant le passé, « Mon enfant, souviens-toi de ce que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que là, Lazare a eu les maux pendant la sienne. » Autrement dit, tu as épuisé les bonnes choses sans penser au futur, alors que tu savais que tu ne pouvais rien emporter. Abraham dit, bien, mon enfant, souviens-toi. Les souvenirs doivent se compter parmi les pires souffrances des perdus de l'au-delà et l'une des plus hautes bénédictions pour les sauver. La mort nous ravit tout ce qui est matériel, mais nous laisse notre nous-mêmes. La mort ne change ni le riche ni Lazare pour en faire des personnes différentes, pas plus que la traversée d'une rivière ni les passages d'une pièce dans une autre ne modifient nos personnalités distinctes. Lazare ne dit mot durant toute l'histoire que relate Jésus. Il ne réclame pas, ne se plaint pas sur terre et n'accable pas le riche une fois arrivé au ciel. Lazare accepte les épreuves sans murmurer, tout comme le riche reçoit les bonnes choses sans jamais les partager avec autrui. Mais Lazare, lui, se trouve être réconforté tandis que le riche souffre cruellement. Si on nous demandait lequel des deux personnages on aimerait être, nous serions tentés de répondre l'homme riche sur terre et Lazare lorsque je mourrai. Mais la Bible enseigne qu'il est impossible de vivre comme un pécheur et de devenir, après la mort, un juste dans l'au-delà. Dieu nous décrit clairement les réalités du ciel et de l'enfer. Il est évident que dans la relation qui nous occupe, nous avons affaire avec l'état intermédiaire se situant juste après la mort et dans l'attente d'un grand jour du jugement. Les saints frères sont toujours sur terre et la loi de Moïse y est en application. La seule différence en matière de punition était sur Ish. Et donc, que la géhenne, l'enfer de feu, est éternel. Et c'est cela qui lui est destiné. Une fois de plus, Jésus tente de nous démontrer que nous pouvons jouir de n'importe quoi dans la vie, mais qu'il faut en payer le prix, même celui de notre âme. La Bible nous décrit la magnificence, le plaisir infini et la joie d'être pour toujours avec Dieu dans le ciel. Le Fils de Dieu dit au moins 10 fois plus au sujet de l'enfer que n'importe qui d'autre dans la Bible. En réalité, lorsqu'on trouve le mot « géhenne » dans la Bible, il est prononcé par Jésus, à l'exception d'une fois. C'est encore lui qui décrit les cieux et l'enfer, et les Écritures disent que celui qui meurt ira soit vivre auprès de Dieu, soit sera séparé à jamais de son Créateur. Pas de milieu, pas de compromis, pas de tergiversation. Une question se pose donc, de quel côté serons-nous? Il est étonnant de remarquer le changement qui brusquement s'opère dans l'esprit du riche. Il fait appel à son père Abraham pour qu'il envoie Lazare avertir ses saints frères de ce qui les attend. C'est étrange. Car on sait que sur terre, il ne s'intéressait à personne sauf à lui-même. Maintenant, tout devient différent. Il vit encore et ne veut absolument pas que ses frères connaissent le même sort que lui. Laissant Dieu, n'éprouve en fait ni le désir ni le besoin de revoir dans l'au-delà ceux qui leur sont chers. Leurs actes le prouvent amplement. Abraham refuse le soulagement et se justifie en faisant référence aux Écritures. Si la parole de Dieu n'a pas réussi à les convaincre, dit-il, comment Lazare le pourrait-il? Mais l'homme insiste et pense qu'un mort ressuscité tel que Lazare le ferait se repentir. Moïse reste cependant inflexible car il sait lui, il n'en est rien. De nos jours, Dieu s'adresse encore à nous, mais nous refusons de l'écouter. Pourquoi cette attitude, cette obstination, cette dénégation si catégorique, d'être heureux ici-bas, de vivre éternellement au milieu de nos bien-aimés,